des poches sous les yeux, l'émission.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Des poches sous les yeux, l'émission en direct sur les ondes de Radio Béton 93.6, mais surtout en direct du Théâtre Olympia à Tours à l'occasion du WET. What? Du WET? Comment, cher auditoriste de Radio Béton, tu ne sais pas ce que c'est que le WET? Ah non, je t'arrête tout de suite, cher auditoriste. Non, c'est pas du tout la version raccourcie du trio écossais WET WET WET. D'ailleurs, cette pop sirupeuse n'a jamais eu droit de citer sur les ondes de Radio Béton. Sache-le une fois pour toutes. Le WET, c'est le week-end théâtre organisé par la jeune troupe du Théâtre Olympia. Et c'est à l'occasion des 10 ans du WET que Des poches sous les yeux, l'émission, a posé sa table de mixage au Théâtre Olympia avec son plein de chroniques de livres, de BD et même de pièces de théâtre. Forcément, Théâtre Olympia oblige. Et on va initier cette nouvelle émission de Des poches sous les yeux avec Claire Tarrou, responsable de la com du Théâtre Olympia, Centre dramatique national de Tours. Voilà, on va souffler les 10 bougies ensemble de ce super festival. Merci Claire de nous accueillir au Théâtre Olympia.
Avec plaisir, merci à vous.
Et bonjour.
Bonjour.
Et donc, pour commencer, une question très simple pour nos éditeurs qui auraient raté l'émission de l'année dernière, l'émission de l'année d'avant ou qui vivent dans un igloo caché. Qu'est-ce que c'est que le WET?
Le WET, donc effectivement, qui veut dire Week-end Théâtre, c'est un festival sur la jeune création, sur l'émergence théâtrale. Il est programmé par la jeune troupe, ce sont les comédiens, comédiennes permanentes du théâtre. Il y a aussi des techniciens, techniciennes et une chargée de production. Il programme en fait la jeune génération, les premiers gestes théâtraux pour avoir un peu un pouls de ce que va être le théâtre de demain.
Et donc, ils prennent leur bâton de pèlerin, ils vont faire le tour des festivals.
Exactement. Ils sillonnent un peu la France et au-delà, parce qu'il y a une compagnie belge, par exemple, cette année.
Absolument. La compagnie Anorak.
Exactement. Ils vont voir un peu dans les festivals et puis les spectacles qui leur sont recommandés. Et puis, il y a beaucoup maintenant, ça fait 10 ans que le WET existe, donc il a une notoriété. Et donc, il y a beaucoup aussi de compagnies qui postulent spontanément.
Des
candidatures spontanées, exactement. Ils essayent, la jeune troupe essaye de se déplacer au maximum, mais parfois, les spectacles sont vus sur captation, ouais. Quand c'est pas possible. Ils ont vu 250 spectacles, ils ont choisi 8 propositions artistiques.
C'est un choix collégial ou bien chacun choisit son chouchou, comment ça se passe?
C'est un choix qui est plutôt collégial. Après, effectivement, parfois, va y avoir une ou deux personnes qui va défendre un peu plus vigoureusement le spectacle, mais il faut que l'ensemble soit d'accord, pas tellement sur... Évidemment, idéalement sur le spectacle en tant que tel, mais aussi sur la cohérence à présenter ce spectacle au Festival WET et la cohérence avec les autres spectacles qui sont proposés en même temps.
D'accord.
Pour la même édition.
Et donc justement, on fixe un thème au festival, il y a une ligne directrice, un fil rouge. Comment se fait ce travail de sélection?
Pas tellement. De toute façon, j'allais dire le fil rouge et les thématiques, elles ressortent avec ce que les jeunes compagnies souhaitent dire aujourd'hui. Ce qui donne plutôt des spectacles qui sont assez engagés. Donc c'est plutôt ça qui va être la ligne éditoriale du festival. Mais ça se veut quand même assez éclectique. Il y a un spectacle par exemple qui s'appuie sur un texte de Lagarce. Et puis il y a aussi beaucoup d'écriture de plateau. Et puis sur les formes, ça rejoint aussi le projet de Bérangère, c'est-à-dire que on va avoir des spectacles avec des formes qui sont plutôt hybrides, qui mêlent le théâtre évidemment, mais le cirque, la musique, les performances, les arts plastiques. Donc ça va chercher un peu dans plein de disciplines différentes.
Ouais, c'est ça qui est un peu déroutant parce que finalement on dit festival de théâtre, mais finalement les frontières sont maintenant assez floues. Entre les différentes formes théâtrales?
C'est effectivement assez poreux. Ça, c'est quelque chose que Bérangère Ventusseau, donc la directrice du Théâtre Olympia, défend énormément. Elle vient par exemple de la marionnette. Et on se rend compte que de toute façon, il n'y a pas beaucoup à se forcer pour aller chercher ce type de spectacle pour le Festival WET parce que c'est quelque chose que la jeune génération, les jeunes compagnies ont complètement intégré. C'est voilà, effectivement, le théâtre, c'est c'est presque trop petit pour décrire ce que sont les formes artistiques aujourd'hui. Et du coup, ça emprunte à plein de choses différentes pour relater de la complexité des récits qu'elles veulent mettre en avant.
Alors, ce qui est super réjouissant dans ce festival, déjà, c'est la quantité, parce que voilà, en 3 jours, on peut se faire 8 pièces. Donc, pour ceux qui arrivent à arranger leur agenda de façon optimale en courant d'une scène à l'autre, puisque ça se fait sur plusieurs scènes de la métropole.
Oui, tout à fait. Il y a cinq lieux. Donc, il y a le Théâtre Olympia, il y a Télème, il y a le Petit Faucheux, le Centre chorégraphique et la Pléiade. Les cite parce que c'est des super partenaires.
Absolument. Et donc, ce qui est réjouissant, disais-je, c'est finalement le public. Parce que pour être un habitué du théâtre le reste de l'année, et pourtant avec, je dirais, le bol d'air frais qu'amène Bérangère, finalement, le public, c'est pas du tout le même pour le Wet.
Il est très différent. C'est déjà un public qui vient de plus loin. C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur un public local ou régional. Il y a des gens qui viennent de toute la France pour ce rendez-vous-là. Et puis c'est un public qui est beaucoup plus jeune, faut bien le dire. C'est aussi l'endroit d'accroche que nous on souhaite mettre en avant quand on le présente au public, et ça fonctionne plutôt bien, c'est-à-dire que il est déjà avec un tarif qui est intéressant, 5 et 10 euros. Et puis je crois que le fait que ce soit des jeunes compagnies qui parlent du monde d'aujourd'hui avec leurs outils actuels, ça fonctionne bien. Donc, on a un public qui est beaucoup plus jeune. On a beaucoup d'étudiants, de jeunes actifs.
Ton rôle en tant que responsable de la communication pour un festival comme celui-là, qu'est-ce que tu vas développer de particulier? Est-ce que tu as des tâches spécifiques ou est-ce que ça s'inscrit finalement dans ton taf pour le Théâtre Olympia sur toute la saison?
Un peu les deux. Il s'inscrit évidemment, mais il a des spécificités dans le sens où déjà on va chercher un autre public. C'est vrai qu'on s'adresse beaucoup aux jeunes. On va beaucoup voir les étudiants pour parler de ce festival-là. Et puis on va, ce qu'on appelle tracter, mais en tout cas on va sensibiliser les gens en allant les chercher dans des lieux qui sont moins évident comme ça. On va au bateau ivre, ou on va dans les bars qui proposent des événements. Et puis l'enjeu, c'est à la fois de faire venir un autre public pour ce festival-là, et puis d'avoir une certaine renommée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi de professionnels qui viennent, parce que c'est l'enjeu pour les compagnies qui sont programmées, à la fois évidemment d'être vues par le public, et en même temps ce sont des enjeux très clairement de diffusion de leur spectacle pour la suite, parce que comme elles sont jeunes, c'est aussi la suite de leur carrière qui se joue parfois au moment du Festival Ouette. Donc on communique aussi beaucoup auprès des professionnels.
Et est-ce que ça marche ce rebond sur les saisons d'avance? Enfin, est-ce que vous pouvez justement vous targuer de cette réussite pour que justement les compagnies viennent toquer à votre porte?
Ça fonctionne plutôt bien. Après, évidemment, après il y a le libre arbitre, il y a des spectacles qui fonctionnent, qui fonctionnent pas, mais ça fonctionne plutôt bien. Il y a des compagnies qui ont eu des dates grâce au Festival Ouette, et puis après très concrètement et vraiment pour nous, on a accueilli parfois des compagnies qui étaient programmées au Festival Ouette, qu'on a accueillies dans les saisons suivantes dans la programmation du reste de l'année du Théâtre Olympia. Donc ça fonctionne même à notre endroit.
Ouais, ça c'est chouette. Et justement, quand on voit l'assistance au Ouette, on se dit que, enfin, on se pose la question, que faudrait-il faire à part une politique de tarifs spécifiques pour les jeunes, mais je pense qu'elle existe déjà au Théâtre Olympia. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour que finalement ce lieu soit, comme c'est un service public finalement, ce soit au service de tous les
voilà,
publics?
Voilà, c'est ça que ça s'adresse à toutes et tous. C'est toujours un enjeu qui est complètement compliqué et difficile à saisir, parce que il y a effectivement plein de portes d'entrée. Il y a les tarifs qui existent déjà. Les places les moins chères sont à 5 et 8 euros pour les plus jeunes. Et après, le levier aussi beaucoup, c'est la programmation. Alors ça, hop, je me défausse. C'est directement auprès de la direction qu'il faudra voir ça. Non, mais c'est vrai qu'on sent, par exemple, tu l'as mentionné, sur le fait qu'il y avait un peu un renouveau avec l'arrivée de Bérangère Ventusseau. Nous, on le constate aussi, c'est-à-dire qu'elle défend un théâtre qui est hybride avec des formes très actuelles. et on voit que du coup il y a un autre public qui vient au théâtre, qui revient aussi des fois, qui déserte, et après c'est vraiment c'est un public qui vient pour certaines certains spectacles, qui va moins être dans l'abonnement et la fidélité au lieu.
D'accord. Donc tu es en charge de la communication au théâtre depuis plusieurs années.
Tout à fait.
Donc tu as vu passer plusieurs directeurs, directrices.
Exactement.
Qu'est-ce que ça change de changer de directeur quand tu fais partie d'une structure qui est quand même patrimoniale à Tours, un service public, et hop, il y a un nouveau directeur, une nouvelle directrice qui arrive. Qu'est-ce qui change?
Et ça, alors ça change complètement. C'est vraiment très salutaire. Je pense que c'est parfait. Donc effectivement, les centres dramatiques nationaux, les mandats, c'est maximum 10 ans. Donc au bout de 10 ans, on sait que la personne qui est à la direction va changer. C'est bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire que la personne qui s'en va, là c'était le cas de Jacques Vincé, il était aussi content de partir. Il a adoré ses 10 ans. Mais à un moment, il se concentre de nouveau sur son projet artistique, sa compagnie. Et puis il y a une nouvelle personne qui arrive en tant que salarié, c'est comme si on changeait
de patron.
Tout à fait, comme on change de patron, mais c'est comme si on changeait de lieu, c'est comme si voilà, j'allais travailler dans un autre théâtre, c'est juste que j'ai le même lieu et les mêmes collègues, mais finalement le projet est complètement différent, donc ça nous redonne aussi du souffle. Effectivement, je le disais, ça fait 16 ans que je suis au théâtre, mais j'ai vraiment pas l'impression d'être enlisée depuis 16 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois ça se renouvelle, et c'est des nouveaux projets, c'est des nouveaux challenges pour nous. Donc ça,
un courant
super.
D'air salutaire.
Exactement.
Ok. Peut-être pour finir, Claire, un conseil que tu aurais sur un spectacle duet que tu as envie qu'on ne rate pas, bien que ce soit sold out, mais justement pour ceux qui n'ont pas de billets puissent regretter. Moi, je les ai, donc vas-y.
c'est un peu compliqué parce que finalement, en fait, j'en ai vu que deux. Pour le moment, donc il y avait Drache National que j'ai vu hier, que j'ai beaucoup aimé, mais c'est fini parce que ça se termine à 12h30 et qu'après il n'y a plus la possibilité de le voir. Il y a le spectacle de clôture qui s'appelle Quand on dort on n'a pas faim, qui est un geste artistique très fort.
Oui,
alors
absolument.
Là sur l'hybridité, on y est vraiment, c'est vraiment très 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 beau, et on en ressort un peu déplacé.
Absolument.
Donc je conseille de venir le voir, c'est dimanche à 19h et on peut venir au dernier moment, des fois il y a des places.
Ouais, j'ai plus soin, effectivement, très beau spectacle et qui n'a rien à voir avec ce qu'on a pu voir avant, ni sur le fond ni sur la forme.
Exactement.
Voilà. Merci beaucoup Claire de l'accueil que le théâtre nous réserve. Merci pour ces échanges et puis
merci beaucoup.
Bonne continuation sous l'égide de Bérangère Ventousseau à la tête du théâtre Olympia.
Merci.
Voilà, on va enchaîner avec un peu de poésie, celle de Lougé Péka, qui sera notre première pause musicale et qui sera à Ocart de Tours. Donc commence à faire de la retape pour ce magnifique festival. Ils seront sur scène le mercredi 10 juin et en guide de teaser, on écoute « Pas à ma place ».
Demain ressemblait à hier et je me suis dit c'est plus la peine. Je veux pas tout miser sur une vie que j'aurais peut-être à 40 ans. Comme le mec d'Into the Wild avec un meilleur style quand même. Je suis parti sans dire je t'emmène. Me cassez pas les couilles avec vos projets de monde meilleur. Ma liberté je l'obtiendrai qu'à coup de pince monseigneur. Je me sens bien sur ton scoot, je voudrais quand même être ailleurs. J'ai décalé mon pouls du BPM de leur cœur. Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 avers, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place.
Je sais pas si j'ai ton menti ou d'un fight club où je regardais le monde en night shift. Il tenait dans l'écran de mon iPhone. J'ai cherché mon talon d'Achille dans des joints de shit et sous des robes. Je m'en vais vivre, désolé si je me dérobe. Comme tous les gens qu'on taffe, je me sens différent des gens qu'on taffe. Je me casse avant de ne sourire qu'en photomontage. Te crois pas libre parce qu'il y a assez de place pour courir dans ta cage. Devenir riche, m'en fous royal, mais c'est pas dans les listes.
Ici je trouverai jamais la paix, donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 avers, s'il te plaît faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je
suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Dans ta soirée, pas à ma place. Dans la musique, pas à ma place. À Paris, pas à ma place. J'essaie juste de trouver ma place. On a rangé toutes nos attaches. Une mère sans but comme chien de la casse. Et même si on fait le tour de la classe, on chanterait. Ici je trouverai jamais la paix. Donc j'ai filé comme une étoile. Je me suis fait la belle, j'ai tout quitté, j'ai mis les voiles. T'as pleuré comme 100 000 affaires. S'il te plaît, faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête. Je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place.
Ah, ça va chauffer sous le grand chape. On enchaîne avec une nouvelle pastille animalière née de la plume d'Olivier Pion et Michel Douard avec Odile en featuring. Il est question de cochons sauvages.
Barra tribord, hissez la grand voile.
La grand voile, capitaine?
Oui, Moussaillon, la grand voile.
Mais y a pas un pet de vent, capitaine?
Quoi, tu discutes mes ordres, Moussaillon?
Non, capitaine, c'est juste que...
Quand j'ai mon rhumatisme dans la jambe de bois, ça fait pas un pli. Ça veut dire qu'on va prendre un grain.
Et votre rhumatisme, il vous dit pas si on va rentrer à la maison, capitaine?
Ça vient, Moussaillon, ça vient.
Le problème, c'est que ça fait 2 mois que ça vient, capitaine, et ça vient toujours pas.
Ouais, tu commences à me les casser, Moussaillon. Quand je dis que ça vient, c'est que ça vient. Sinon, je dis pas que ça vient.
Pourvu, capitaine!
Alors, je l'avais pas dit que ça venait?
Bah si, capitaine.
Hein? Qu'est-ce qu'il dit, le petit matelot sceptique, maintenant?
Pardon, capitaine.
Bah oui, pardon, capitaine, quand ça sait pas, on la boucle. Quel port, la vigie? Brest? Saint-Malo? La Bourboule?
Autant pour moi, capitaine! C'est pas un port!
Comment ça, pour un port?
Non, capitaine! Le fait que je fête, je crois que c'est plutôt un facochère ou un sanglier.
Un sanglier?
Oui, capitaine! Une sorte de cochon sauvage, capitaine.
Non, mais je sais ce que c'est qu'un sanglier, merci. Mais en plein océan?
En plus, il a pas l'air content, capitaine.
Quoi?
Il vont droit sur vous en grognant, capitaine.
La grand voile, il s'aborde, il sait la grand voile.
Aïe, 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 tout ça, c'est bougrement haram, dites donc. Heureusement, Daniel, qui va nous téléporter d'un Olympia à l'autre, va nous parler d'Oum Kalsoum.
Tout à fait. Oum Kalsoum, l'arme secrète de Nasser, c'est ça. C'est cet album dont je veux vous parler, de Martine Lagardette et Farid Boudjelal, paru aux éditions Oxymore. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'Olympia, donc je vais vous parler de l'Olympia.
Eh oui.
Mais comme je suis un boomer, je vais parler de l'Olympia de Bruno Cocatrix. Retour en 1966.
Le premier Olympia.
C'est une bonne année, 1966.
Excellente année, je vous le concède, Daniel.
Le premier Olympia. Donc on est tous d'accord, enfin surtout moi finalement, qu'Oum Kalsoum, c'est de la balle, c'est une star planétaire qui a marqué le monde arabe et bien au-delà. Comme les Beatles, les Stones, Elvis, bon, moins énervé, quoique. Tous les jeudis, à la radio, à Radio Le Caire, elle donnait rendez-vous à son public de Tanger à Damas, écouter vibrer les cordes vocales d'Oum Kalsoum et avec son orchestre de compétition. Alors Oum Kalsoum, pourquoi un tel engouement, me direz-vous, pour une chanteuse égyptienne à la voix grave de contralto? Vous avez déjà entendu Oum Kalsoum, cette voix hyper grave?
Bien sûr, mais je me suis demandé si on disait Oum Kalsoum, Oum Kalsoum.
Oum Kalsoum.
Oum Kalsoum.
Oum Kalsoum.
D'accord. Bien sûr que tout le monde connaît Oum Kalsoum.
Ah oui? Une voix grave de contralto qui envoie quand même des titres qui durent au moins 40 minutes avec des guitares électriques, même pas saturées. C'est un peu ce que veulent nous faire comprendre les deux auteurs de ce roman graphique. On ne rejoue pas la biographie édulcorée sur le personnage sacré, lisse et sans ombre, qu'on peut lire par ailleurs dans les autres ouvrages. Mais on nous parle un peu du trait de sa carrière rapidement, entre travestissement lorsqu'elle psalmodiait le Coran avec son papa, lors des cérémonies religieuses, cinéma, enregistrement dans les labels, avec des suffixes en phone, baïdaphone, facifone, tout le monde était en phone.
Ouais.
Ouais. Mais là, sur 14 chapitres, on nous raconte, par le menu, plutôt très très bien documenté, un pari fou du patron de l'Olympia, Bruno Cocatrix, qui en 1966 a eu l'opportunité de se rendre au Caire pour essayer de trouver, de booker, dirait-on aujourd'hui, Un ou une artiste susceptible de remplir l'Olympia, plutôt sur la période estivale, moment de tournée yéyés, parce qu'eux, ils tournent l'été.
D'accord.
Finalement, après avoir rencontré les stars de l'époque, Farid El Latrache, est connu, Samia Gabal, c'est une danseuse, Abdel Halim Hafiz, c'est un crooner, il est attiré par la resta de l'époque, l'inaccessible Oum Kalsoum. Pour info, ce nom, Oum Kalsoum, c'est le nom de l'une des filles du prophète Mohammed.
Ah bon.
La quatrième. Bruno comprend que Oum n'est pas juste une chanteuse orientale et qu'elle est une figure de proue du monde arabo-musulman et même au-delà. Et il va jouer gros. Parce que elle, ce qu'elle demande, c'est 40 personnes d'accompagnement dans sa tournée, je t'explique pas le rider, et deux, pour deux dates, et un cachet qui monte à deux fois celui d'Edith Piaf. C'est donc l'histoire d'une tournée de deux dates, unique en France, unique dans le monde, la France étant le seul pays occidental ayant accueilli la star. Il a fait de l'huile quand même, Bruno, jusqu'au dernier moment.
De l'huile d'olive?
De l'huile d'olive. Bien! Mais parfaitement. Mais plusieurs, parce que il a mis quand même plusieurs mois à ce que le contrat soit signé. Et la billetterie, genre une semaine avant, elle était au ras des pâquerettes. Jusqu'à une interview d'Oum qui provoque un raz-de-marée et une ruée de la billetterie à l'Olympia. Et il jouait quand même gros. Hein. Donc on y croise toutes les vedettes de l'époque. C'était en novembre 67. Époustouflé par l'événement, et pour les boomers, ça compte. Dalida, qui avait commencé sa carrière au Caire. Claude François, avec son...
Son origine égyptienne.
Oui, et puis il a chanté un morceau en arabe, le Mabouk, un truc comme ça. Nana Mouskouri, Gilbert Moustaki, qui est du Caire, bon, bref, on s'en fout. Alors, pourquoi ce titre, L'arme secrète de Nasser? Parce qu'on est en 66, et en 66, qu'est-ce qui se passe? C'est 5 mois après la guerre des 6 jours entre Israël et l'Égypte. Et c'est quoi la cause de cette guerre des 6 jours? Je vous le donne en 1000, le blocage du détroit de Tiran, ça se trouve juste au sud de d'Ormuz, principal accès au pétrole, par les Égyptiens, donc blocage. Contre qui? Contre les navires israéliens. Et remember, tu n'es pas seul au monde, détroit d'Ormuz.
Mais
non,
oui,
non.
Mais l'histoire est un éternel recommencement.
Toujours, mais toujours. Et alors, cette arme de d'Oum Kalsoum, l'arme de Nasser, pourquoi? Parce que Oum Kalsoum et Jamal Nasser, le président, étaient très, très, très liés. Non, c'est pas ce lien-là. D'accord. C'est un autre. Hein. Okay. Ok, bah, tout ça. Mais comment s'est passé le concert, en fait, en 67? Elle a joué 3 morceaux jusqu'à 3 heures du matin. Elle a joué El Atlal, El Omri. El Atlal, j'ai un petit boom, on l'entend pas très, très bien.
Entendez, si, si, on l'entend bien. Si, ah, si, moi, je te le dis.
Atlal. 3 morceaux et on a dû interrompre le show pendant une heure tellement c'était chaud. Et que criait le public?
Une autre?
Non, il criait Palestine en boucle. Oh, et ouais,
déjà.
Après une annonce de son chargé de diff, l'année prochaine, l'astre de l'Orient, c'était Oum Kalsoum, chantera où? Dans Jérusalem libérée. Et Oum Kalsoum, elle a dit bah bien sûr. Donc quand même, il y a du lourd, hein. C'est pour ça qu'on parle d'Alain de Nasser. Alors le roman graphique, il est bien géré à la manière d'un travail un peu sur des photos d'époque, il est magnifique. Travaillé par Monsieur Boudjelal, Farid Boudjelal, connu pour une œuvre autobiographique et sociale autour de l'immigration française, algérienne en France. Et puis il a travaillé sur un album qui s'appelait Élysée avec un grand Z, comme Zemmour. Et c'est un peu le même travail qu'il a fait techniquement, pas sur le contenu. Il a bien exposé les cadres quand même de la narration et il nous offre quand même un sens de lecture sur 2 pages et des moments extraordinaires quand même. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on nous offre le texte bilingue français-arabe.
Oh.
Mais pas tout le temps quand même. Pourquoi? Pour souligner quand même la volonté d'Oum Kalsoum de ne s'exprimer qu'en arabe, même si elle comprenait très bien le français. Bon, voilà. Je pense que c'est un bel album que j'ai trouvé, avec une belle doc et sur l'événement et une tonne de références sur Oum Kalsoum, sa vie, son œuvre.
Et donc c'est Oum Kalsoum, l'arme secrète
de Nasser,
et c'est publié.
Oh, je l'ai dit tout à l'heure aux éditions Oxymore. Oxymore, c'est Farid Boudjelal, je crois que c'est son frère qui est à l'origine de cette maison d'édition. Et c'est gros, hein. Ça fait, je sais pas combien de pages. C'est pas trop, trop cher.
Plusieurs kilos.
Peut-être que je l'ai pas dit, d'ailleurs.
Merci beaucoup, Daniel. On va rester au milieu du 20e siècle avec Odile qui n'a pas osé venir partager sa cro en live, mais qui a osé fouiller sa bibliothèque pour nous.
Bon, il faut faire une chronique pour un direct au théâtre Olympia. OK. Alors voilà, c'est l'occasion de voir ce que j'ai dans ma biblio. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Une pièce de Boris Vian, lue ado, et je vous rassure, relue pour l'occasion. À l'époque, j'étais tellement fan de Vian que j'avais tout acheté et tout lu, même les pièces de théâtre qui, il faut bien le dire, n'ont pas ravi la critique et personnellement ne m'ont pas hyper enthousiasmé. Seul Écarissage pour tous a été joué du vivant de Vian. Il n'a pas pu défendre ou participer à la mise en scène des autres pièces puisqu'il est mort prématurément à 39 ans en 1959. Alors, c'est amusant de s'attaquer à une pièce dite d'avant-garde, 70 ans après, car depuis, il suffit de regarder les propositions du Théâtre Olympia pour se dire que, dans la pièce dite d'avant-garde de Vian, intitulée « Les bâtisseurs d'Empire », à présent, il faut surtout retenir l'adverbe « avant ». Est-ce que c'était mieux avant ? Pas sûr, mais ce n'est pas le propos. Disons que la pièce est bien datée. À l'époque, Vian, iconoclaste de génie, oui, je suis quand même resté fan, a surfé sur la vague de l'avant-gardisme. À la même époque, Ionesco triomphe. Il apporte un souffle nouveau, faisant fi des conventions théâtrales, du conformisme petit bourgeois, cristallisé par le langage. Si tout le monde connaît la cantatrice chauve ou rhinocéros, il n'en est pas de même pour l'écarissage pour tous, les bâtisseurs d'empire ou le goûter des généraux, qui ont pourtant été des pièces de Vian jouées dans énormément de pays. Les bâtisseurs d'Empire, ou le Schmürz, a été présenté pour la première fois le 22 décembre 1959 à Paris, sous la direction de Jean Villard, et avec une musique de Georges Delru. Et oui, il n'a pas fait que des musiques de films. Il n'y a pas plus de bâtisseurs d'Empire dans la pièce que de cantatrices chauves chez Ionesco. Est-ce là une manière de marquer le divorce entre le monde et le langage ? Alors, de quoi ça cause ? La pièce décrit la fuite d'une famille, d'étage en étage, dans un immeuble, suite à un bruit apocalyptique qui les terrifie. Il y a le père, la mère et leur fille Zénobie. On est chez des bourgeois, puisqu'ils ont avec eux la bonne nommée Cruche, évidemment. Au début, ils croisent encore des voisins, dernier signe de leurs échanges sociaux. Les échanges verbaux mettent en avant un langage désarticulé qui fait écran au réel et crée un climat insolite. Le voisin parle de son fils. Ce qu'il va sur ses 18 ans. Et Zénobie demande, il y va comment ? À pied, à cheval ou en patin à roulette ? La famille déménage à chaque fois en montant d'un étage et en laissant petit à petit ses affaires dans l'ancien logement. L'appartement, lui, devient à chaque fois de plus en plus étriqué. Au troisième et dernier acte, il n'y a plus qu'une seule pièce. À chaque fois dans le nouvel appart, il y a une espèce de monstre, un homme en loque, muet, le schmurtz du titre, qui se fait battre ou cracher dessus par les personnages, excepté la fille. Bien sûr, l'absurde de la situation demande au spectateur ou au lecteur cartésien d'interpréter les signes. Le bruit représente-t-il la fureur sociale qui fait fuir les bourgeois, ou une guerre imminente ? Même les personnages se posent la question. Ce bruit n'a pas une importance réelle alors ? Au fond, non, c'est une image, un symbole, un repère. Mais si ça n'a pas d'importance réelle, pourquoi on s'en va ? Demande Zénobie. C'est plus prudent, répond le père. Le Schmürtz, souffre-douleur de la famille, incarne-t-il nos erreurs, nos défaites personnelles ? Et ce serait pour cela que la jeune fille encore innocente ne s'y attaque pas ? On retrouve le style cinglant des romans de Vian dans le monologue de la fin. Le père dit avec solennité « Un homme digne de ce nom ne fuit jamais. Fuir, c'est bon pour un robinet. » Cette fuite effrénée en avant, dans l'urgence, et la peur, d'abord en famille, puis dans la solitude, est peut-être une référence à la vie, à un parcours qui, malgré les révoltes, se termine avec certitude par la mort. N'oublions pas que, pendant l'écriture, Vian se sait condamné. Son angoisse se traduit peut-être par le bruit infernal de la pièce. Serait-ce les battements trop rapides de son cœur ? L'étroitesse des logements successifs représenterait-elle son univers qui rétrécit ? Finalement, je rêverais de voir la pièce monter à nouveau, car les interprétations sont nombreuses, et que le metteur en scène qui s'en emparerait n'aurait que l'embarras du choix pour marquer de sa patte cette pièce. Alors, qui est prêt à s'attaquer au bâtisseur d'Empire ou le Schmürtz de Boris Vian ?
Merci Odile, on a maintenant le plaisir d'accueillir un chroniqueur en live, en chair et en os, c'est Quentin qui va nous faire revenir au réel, ou en tout cas nous parler d'un auteur... de théâtre contemporain.
Oui, oui, tout à fait, merci. Bien, à l'ombre du grand événement qui est le WET,
évidemment.
Un petit événement aussi s'est passé en ce mois de mars 2026, puisque Julie Deliquet a pris la tête du Théâtre National de la Colline à Paris en remplacement de Wajdi Mouawad. Donc elle lui succède, Wajdi Mouawad, qui occupait le poste depuis 10 ans. Alors, c'est un peu cliché de dire qu'une page se tourne, mais déjà, comme l'a dit Claire tout à l'heure, c'est vrai qu'un changement de direction, c'est quand même quelque chose de très différent. Mais on peut dire que aussi Wajdi Mouawad aura marqué son passage de son empreinte. Et là, moi, je peux le dire personnellement parce qu'il se trouve que pendant une bonne période de ce mandat, j'habitais à Paris et j'attendais avec excitation les créations de Wajdi Mouawad. Où on essayait de se procurer des tickets, mais c'était pas facile parce que il y avait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. D'ailleurs, autre parallèle avec le Wet, c'est qu'il a attiré un public très, très jeune. Je parle pas de moi, mais il a attiré quand même un public assez jeune au Théâtre de la Colline. Et donc, l'occasion était belle de lui rendre un hommage, d'autant plus qu'il sort un livre qui s'appelle « Jusqu'au bord de son ravin » aux éditions du Seuil, et sous-titre « Les verbes de l'écriture ». Alors, tout est parti d'une invitation aussi simple que sournoise du Collège de France.
Mazette.
Qu'on pourrait...
Moi, j'ai pas été invité.
Non, et qu'on pourrait résumer comme si... Alors, ils sont allés voir Wajdi Mouawad, ils lui disent « Dis-moi, Wajdi, comment on raconte une histoire et tu peux nous donner 8 heures de cours là-dessus. » Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le travail de Wajdi Mouawad, vous serez pas surpris d'attendre qu'il s'est pas défilé. Et il a pas fait un cours, encore moins un atelier d'écriture. Mais il est parti dans l'exploration des forces, des mécanismes de son esprit qui se mettent à l'œuvre et qui aboutissent à une histoire qui résume de la manière la plus dense possible, qui est un jour, quelqu'un, quelque part, il lui arrive un truc. Voilà. Et c'est un exercice d'introspection dans lequel il nous entraîne. Et on va dire que globalement, c'est résumé en... Enfin, je dirais que sa réflexion s'articule autour de 3 thèmes. Il y a son vécu. Le rapport de ce vécu à des grands mythes, à des grandes histoires qui l'ont influencé, et une réflexion aussi sur notre monde actuel. Et ces 8 cours, il les a, parce que c'est pas vrai, c'est pas des cours, comme je dis, mais c'est, il y a, veut dire 8 séances qui va articuler autour aussi de 8 verbes. Être, voir, trembler, choisir, rencontrer, consoler, aimer et mourir, évidemment. Alors, il est important de comprendre la vie de Wajdi Mouawad pour savoir d'où ça vient tout ça. Donc, il est né et il a grandi au Liban.
Il est parti très vite.
Oui, mais il est parti quand même à plus de 8 ans. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de voir les bombes tomber dans son jardin. Il le dit littéralement. Il a vu aussi la violence exacerbée chez les êtres humains. La magie s'arrêtait, la magie de la jeunesse. Et puis, il a donc fait un exil en France à 8 ans. Puis, à 16 ans, il est parti au Canada avec toujours... cet espoir de retour, espoir qui sera sans cesse repoussé et il ne reviendra jamais. Il sera complètement paumé dans sa vie, d'autant plus que sa mère meurt d'un cancer quand il habite au Canada. Et bien sûr, il est paumé et jusqu'au moment où il rencontre le théâtre. Voilà. Donc ça, c'est un peu sa vie, sa vie avant le théâtre. Et qu'est-ce que nous dit ce bouquin ? Il y a plein de choses qu'on pourrait retenir. Mais ce qu'il nous dit, c'est que l'écriture, la vraie, celle qui n'est pas la fabrication de bidets, c'est lui-même qui emploie cette expression, c'est pas un choix. Ça s'impose à nous. Et tout le monde en est capable. Tout le monde en est capable. C'est pas une question de style. Tout le monde en est capable, mais à condition de déterrer ses charniers. Il faut creuser, il faut y aller. L'autre chose importante qu'il nous dit, c'est que les histoires, qu'on les raconte, qu'on les écrive, qu'on les écoute, elles nous sont nécessaires par les fantasmes qu'on exprime, par les espoirs qu'ils suscitent. Et on en a besoin pour affronter la vie et ses incongruités. Et une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il parle beaucoup des mythes grecs et à quel point leur lecture actuelle est tout à fait pertinente. C'est pas des choses anciennes qu'on remet au rebut. Et enfin, il nous dit aussi que ces lectures et ces histoires, ces fictions sont nécessaires pour la vie dans une société démocratique et pour lutter contre toutes les dictatures. Alors oui, c'est intense. Oui, on en prend plein la gueule. Il nous met face à nous-mêmes. Moi, il y a des moments où j'ai arrêté la lecture parce que je trouvais qu'il fallait prendre une petite pause. Mais il nous dit ça avec une légèreté, avec de la poésie, avec de l'humour et avec tellement d'enthousiasme. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous fait, Wajdi Mouawad ? Il nous fait 8 heures de théâtre. 8 heures de théâtre. Et j'encourage parce que des poches sous les yeux, ce n'est pas que de la littérature, n'est-ce pas ?
N'est-ce pas ?
Eh bien, j'encourage les auditeurs et les auditrices à aller voir aussi la conférence sur le site du Collège de France, c'est-à-dire lire le livre, bien sûr, mais aussi voir la conférence sur le site du Collège de France. C'est vraiment captivant. Donc, c'est Jusqu'au bord de son ravin, les verbes de l'écriture de Wajdi Mouawad aux éditions du Seuil.
Merci beaucoup Quentin, super. On va faire une deuxième pause musicale. Écoutez l'envoûtante Hades the Planet qui sera sur la scène d'Ocar le mardi 9 juin. On découvre Millions.
Before I let go, I told you my friend, je voulais qu'on s'aime. Adieu my friend, moi je voulais qu'on s'aime. J'en ai rien à foutre du mini mini, elle en vaut des millions. Regarde les gars mignons, on passait vers minuit. La nuit a s'humilié, j'ai comme elle est malléable. J'aimerais être un mini-mi pour voir ce qui se cache dans son hum, dans son icy hot. Bitch, que tu froid c'est cool.
Nous sommes de retour en direct du Théâtre Olympia à Tours. Le public vient de sortir de la salle, il y a beaucoup d'ambiance. Nous sommes en plein direct du WET. C'est l'heure où Pascal prend le relais puisqu'il reçoit Josepha Juillet pour une interview au sujet de son dernier livre.
Eh bien bonjour Josepha.
Bonjour.
Vous êtes l'autrice donc du tome 1 de Terre des Ombres, La Nation des Bulles, qui est paru en début d'année chez Olympe. C'est une collection de Noël et Gallimard. Alors vous vivez en Touraine, hein, c'est pour ça qu'on vous a invité.
C'est ça.
Revenons un petit peu sur votre parcours d'écrivaine. Ce n'est pas votre premier roman, hein. Le besoin d'écrire date de votre enfance, d'après ce que j'ai lu.
Oui. J'ai toujours beaucoup écrit depuis que je suis petite, mais c'est seulement quand je me suis retrouvée un jour en arrêt de travail que je me suis dit, il faut que je m'y remette.
D'accord. Et quand vous étiez petite, c'était pas de la fantaisie déjà quand même?
Non, j'ai commencé par les poèmes, j'ai commencé par les romans d'aventure, j'étais très club des cinq, hein, c'est générationnel, et puis après, petit à petit, je suis allée vers l'imaginaire.
Alors, c'est pas votre premier roman publié, hein, parce que non. Si on compte bien, j'en ai vu en 24, en 25, sans compter la fameuse trilogie Terre des Ombres, dont on parle aujourd'hui, qui est déjà sortie en 2021, mais en auto-édition.
Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. En 2024, j'ai sorti Le Serment de l'Angre Brume chez Hurlevent, qui est un one-shot plutôt autour de sorcières, de forêts maudites, etc. En 2025, Mutation, qui est sorti chez les nouvelles éditions ActuSF, le premier tome de la trilogie. Le deuxième tome arrive bientôt. Et là, donc Terre des Ombres, qui a été repris par les éditions Olympe.
Alors pourquoi cette explosion d'un seul coup comme ça?
Du travail qui paye. L'auto-édition, c'était une solution parce qu'en 2020, quand j'ai voulu sortir Terre des Ombres, en fait, toutes les maisons d'édition étaient fermées. Et j'avais ce manuscrit qui dormait sur mon ordinateur, qu'une éditrice avait déjà regardé, qu'elle pensait publiable et que je ne savais pas quoi en faire. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Et puis j'ai eu des opportunités qui se sont présentées. Quand j'ai écrit mon one-shot, Le Serment de l'Angre Brume, je l'ai envoyé en maison d'édition en me disant je vais tenter autre chose. Ça a fonctionné. Ce qui m'a permis ensuite de retrouver Mutation chez ActuSF, puis ensuite Olympe pour Terre des Ombres. Voilà.
D'accord. L'auto-édition, c'est... Alors, vous l'avez fait parce que c'était un petit peu circonstanciel, mais c'est intéressant de passer par l'auto-édition pour pouvoir se tester ou là c'est vraiment obligé quoi. Enfin...
Non, je pense que c'est vraiment une question de choix. C'est-à-dire que l'auto-édition permet beaucoup de liberté, permet de tout gérer entre guillemets, et c'est aussi assez satisfaisant de voir qu'on peut monter un projet de A à Z. Ce qu'il y a, c'est que c'est très chronophage et ça demande un boulot quand on veut le faire de façon professionnelle. Un boulot de maison d'édition, un boulot de recherche de graphisme, de communication. Enfin, c'est très très complet quoi. Et je travaille à temps plein à côté, donc il y a un moment en fait, quand on sort un livre, ça va, deux, ça va. Quand on en arrive à cinq, ça commence à être compliqué.
Parce que finalement, donc, à part l'auto-édition, vous avez fait ActuSF, ouais. Hurlevent, de Noël, enfin, voilà. Olympe de Noël Gallimard.
Oui, c'est ça.
C'est laquelle maison d'édition qu'elle a mieux?
Elles ont chacune leurs points forts et leurs points faibles. C'est-à-dire que ça dépend aussi un petit peu de la ligne éditoriale. Ouais. Mutation, c'est du young adulte. Ça passait dans la nouvelle collection d'ActuSF. Le serment de l'engrais brume, c'est vraiment une empreinte assez de réalisme magique qui rentre pas vraiment pour le coucher de Noël, et donc ça allait bien avec l'empreinte historique de la maison d'édition Hurlevent. Et Terre des Ombres, pour le coup, il y a de la romance, ce qui cadrait bien avec Olympe. Donc voilà.
Parce que finalement, là, c'est comment ça s'est passé pour cette trilogie là? C'est la maison d'édition qui est venu vous chercher au vu du succès de l'auto-édition ou
Non du tout. En fait, j'étais en salon hein, d'auto-édition. Je suis allée saluer une collègue à moi qui est traductrice et journaliste et que j'apprécie beaucoup et qui était invitée à ce salon. Et par hasard, à ce stand, s'est retrouvé l'éditeur de Gallimard et c'est mon amie qui avait lu mon livre qui lui a présenté Terre des Ombres. Donc un peu par hasard, moi j'étais complètement déstabilisée. Je ne savais pas qui était ce monsieur ouais. Et je me suis retrouvée comme ça, à ce qu'ils me disent envoie-moi ton texte, ça m'intéresse. Et de fait, voilà, c'est comme ça que j'ai publié.
D'accord. Alors, revenons donc à Terre des Ombres. Terre des Ombres, hein, un livre de fantasy, j'oserais dire un peu de romance fantasy.
Oui.
C'est comme ça qu'on peut le classer?
Oui, pareil.
Parce que j'ai vu des interviews de vous où vous dites je lis à peu près de tout, sauf de la romance.
Je lis pas de romance pure. J'aime pas ça, parce qu'en fait, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que je suis hyper difficile. Et comme je suis très très difficile, je préfère ne pas en lire plutôt que d'être déçue. Mais c'est pas pour autant que j'en lis pas. Parfois, je veux dire, c'est pas que ça me dérange dans un texte ou autre. Mais voilà.
Alors. L'histoire est quand même difficile à pitcher en quelques mots. Hein. Il était une fois donc un pays où les humains ont peur des ombres, hein, des entités dangereuses qui vivent là où il n'y a pas de lumière. Ils vivent donc ces humains dans des cités bulles dans lesquelles la lumière est toujours allumée. Voilà. Seules les chuchoteuses peuvent communiquer avec les ombres, mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de chuchoteuses, jusqu'à ce que Adèle découvre ses pouvoirs. Donc vous mélangez intrigue, magie, trahison, aventure, mais aussi humour, hein, et vous rajoutez un brin de romance et ça donne un livre qu'on dévore, enfin en tout cas que j'ai dévoré à toute vitesse, malgré ses 450 pages, qu'on repose en maudissant l'éditeur d'avoir à attendre si longtemps avant le prochain tome.
Alors si longtemps, pour le coup, ça va parce que il a décidé de sortir la trilogie dans l'année. Donc là, le tome 2 arrive le 16 avril.
Mais quand même,
entre
début février et avril. Oui. C'est une éternité pratiquement quand on attend.
Il paraît que la fin n'est pas sympathique pour ceux qui le lisent.
Oh.
Voilà. Il paraît que ça se termine en cliffhanger et que c'est pas gentil pour un des personnages.
Alors moi ça m'a fait penser. C'est une obsession chez moi à Catherine Dufour, qui est une autrice de fantasy.
Une vraie obsession.
Une vraie obsession chez moi. Oui. Vous avez lu ça, Catherine Dufour?
J'ai pas lu Catherine Dufour, mais je l'ai rencontrée et j'ai eu un de ses livres dans ma pile à lire, mais qui augmente.
Sa première trilogie, Quand les dieux buvaient, m'ont fait penser un petit peu à ça. À la fin du bouquin, il y a une playlist.
Oui.
Vous écrivez en musique?
J'écris en musique. Ouais. C'est indispensable.
Parce qu'on capte pas béton à Loche, c'est pour ça.
Non, en fait, la musique, je suis assez aisément distractible. Et la musique, ça coupe un de mes canaux sensoriels et ça me permet de me concentrer. Et du coup, ça donne aussi une ambiance. Parfois, c'est en écoutant une musique.
Ça déconcentre pas pour écrire.
Non, ça m'aide. Et parfois, en écoutant une musique, ça me donne l'idée d'une scène ou quelque chose en particulier. Et comme Terre des Ombres, il y a beaucoup de danse dedans, ça se prêtait aussi particulièrement bien... à la musique. Voilà.
D'accord. Vos autres romans sont aussi de la famille de la littérature de l'imaginaire. Hein.
Oui.
Pas envie de vous essayer à d'autres styles de littérature?
Eh bien, si. Là,
puisque j'en parle.
Non, mais là, j'ai écrit un quatre-mains qui est une petite romance de Noël sans imaginaire avec une amie autrice. Donc voilà, on est en train de le terminer. Donc pour le coup, je me lance aussi dans la romance.
Donc vous avez encore des bouquins en réserve, quoi. C'est
oui.
En fait, là, ça fait depuis, disons, les débuts des années 2020 où
oui.
c'est à foison. En fait, c'est parce que tous ces livres étaient déjà écrits que il y a plus qu'à les pousser.
Il y a les deux trilogies Mutation et Terre des Ombres qui sont écrites depuis ces années-là, que je retravaille bien sûr avec les éditeurs. Donc ça reste du boulot, mais il faut pas écrire les premiers jets. Et puis le temps que ça sorte, j'écris autre chose. Donc forcément, il y a un petit stock.
D'accord. Donc en fait, votre boulot vous laisse quand même pas mal de temps libre.
Pas du tout. Parce que je travaille, jusqu'à il n'y a pas très longtemps.
Psychomotricienne,
c'est ça? Je suis psychomotricienne.
C'est quoi ça?
Alors, je travaille, quand on est psychomotricienne, on travaille sur le bien-être global du patient, qu'il soit psychique ou corporel, à travers des médiations corporelles. Moi, je travaille en unité de soins palliatifs avec des patients plutôt sur, on va dire, avec des maladies incurables, avec des problématiques de douleur et d'angoisse. Voilà.
Donc, du coup, l'écriture est un petit peu une soupape.
C'est l'opposé exact de ce que je fais. J'ai un métier qui est très corporel, qui est très au contact avec les gens. Et l'imaginaire, c'est le parfait pendant, je pense, pour ça. C'est aussi pour ça que je pense que j'écris de l'imaginaire.
Bon, eh ben, merci, Josépha. Il nous reste plus qu'à attendre le 16 avril pour la sortie du tome 2.
Voilà.
De Terre des Ombres. Merci beaucoup.
Merci.
Merci Pascal, merci Josépha. On retrouve en direct Rémix qui nous parle de son coup de cœur pour une BD qui met à l'honneur un dessinateur, un poète que je ne connaissais pas, Marcel Bascoulard.
Vous connaissez Bourges ? C'est là que j'ai rencontré Marcel Bascoulard. Enfin rencontré, c'est moyennement vrai, en vérité je vous le dis, il habitait cette riante cité dans le début des années 70. Avant la semaine dernière, je ne connaissais pas Marcel Bascoulard. Cette découverte, je la dois à Franz Duchazeau, dont j'avais apprécié les derniers jours de Robert Johnson. C'était chez Sarbacane, l'éditeur aussi. Et je dois le remercier pour m'avoir fait découvrir un personnage fascinant, clochard flamboyant, portant des robes de couturière, se promenant dans les rues de Bourges avec son tricycle, vendant ses dessins faits à la plume, mais son art ne se résume pas au dessin d'une beauté et d'une précision remarquables. Poèmes, photos, peintures abstraites et cartographies faisaient partie de son univers. Mais peut-on définir Marcel Bascoulard, hein? Rebelle, curieux, cultivé, minutieux, anticonformiste, s'habillant en femme, mais refusant toute interaction sexuelle car doté, d'après lui, d'un poignet musclé. Sa vie est bornée de tragédies. Sa mère a tué son père d'un coup de fusil dans le dos. Elle finira sa vie dans un hôpital psychiatrique. Franck Duchazeau a notamment dessiné avec une absolue poésie cette partie de la vie de Marcel Bascoulard. Cette vie a une fin tragique. Il meurt étranglé dans la cabine du camion qui lui servait de refuge. Ce livre est une interaction dans les dernières années de sa vie. C'est un superbe hommage à un artiste qui ne mérite pas d'être passé sous les radars. Marcel Bascoulard de Franck Duchazeau, c'est aux éditions Sarbacane. Et franchement, c'est super bien.
Merci beaucoup, Rémix. Mais quelle heure est-il ? C'est l'heure de votre feuilleton radiophonique, pardi. La Bourboule Parano, dont on découvre, accrochez-vous bien, le premier épisode de la saison 2. Et si vous avez malheureusement manqué la première saison, rassurez-vous. On prend les mêmes protagonistes, on ajoute quelques sujets d'actualité, on secoue tout et on vous sert ça dans un grand éclat de rire. Allez, c'est parti.
Vous connaissez la Bourboule ? Eh ben, vous avez tort, c'est là que j'ai connu Albert.
La Bourboule Parano. Le feuilleton made in béton. En vérité, je vous le dis, plus vous serez généreux, plus vous recevrez la joie de Dieu. Plus vous oublierez la matérialité et plus votre âme s'élèvera vers la richesse de mon amour. Que prospère notre super communauté.
Que ton nom soit sanctifié, super Jésus. Que ta chevelure divine soit super brillante. Que ton super appartement gagne en confort.
Oui, d'accord, mes brebis jolies. Mais en vérité, je vous le dis aussi, certains n'ont pas payé leur cotisation du mois de juin.
Super Jésus, vous m'aviez dit qu'il y avait moyen de s'arranger pour celles qui prennent soin de votre super corps.
Oui, Natacha, c'est pas la question.
Moi aussi, je peux m'occuper de votre super corps, notre Christ ressuscité.
Pas la peine, Bruno, pas la peine.
C'est qu'en ce moment, ça m'arrangerait. En fait, mes finances sont au plus bas. Oh, mon Seigneur, au plus haut des cieux.
Bruno, Bruno, Bruno. N'oublie pas que tu dois donner, donner et donner encore. C'est le concept sacré. Veux-tu y déroger ?
L'un de moi, cette idée, ô entité christique, mais...
Bien. Alors, je suis sûr que tu peux trouver en toi-même les ressources pour approvisionner la communauté en revenus d'amour.
Je peux, comme Natacha ?
Non. Non, Bruno. Ça, c'est pas possible. Non. Mets ça dans ta tête de pêcheur. Prie notre Seigneur et ta banque babylonienne. Bon, revenons à nos moutons sacrés. À part Natacha, ceux qui ne se sont pas acquittés de leur super cotisation d'amour doivent le faire sans attendre l'apocalypse. S'il te plaît, Catherine, tu peux éviter de mettre tes pieds sur mon super canapé.
Super Jésus.
Oui, Christian.
Super Jésus, toute ma retraite y passe, ô Messie sémillant. Je me disais qu'il y aurait peut-être moyen de diminuer notre bol pour améliorer notre vie terrestre sans heurter ta super sensibilité.
Ah, bon, on fait une pause, mes brebis déboussolées, je vais ouvrir. C'est sans doute un nouvel adepte. Bonjour, mes frères.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien Régis Bourdet ?
Alors ici, mon frère, on m'appelle Super Jésus.
Et nous, on nous appelle la police. Commissaire Boulard, inspectrice Callot. Désolé, mais au troisième étage du bâtiment Les Pigeons, c'est Régis Bourdet qu'on est venu voir.
Et qu'est-ce que vous lui voulez à Super Jésus ?
Super Jésus, pas grand-chose, mais Régis Bourdet, on voudrait l'inviter à nous suivre au commissariat.
Oui, alors, c'est-à-dire que là, c'est pas vraiment le bon moment. Pour tout vous dire, je suis sur le point de répandre la parole divine sur le monde.
Bah, c'est bien dommage, mais je crains qu'il vous faille différer l'épandage.
Attendez, mes frères, il y a sûrement moyen de s'entendre. Je suis en mission, vous comprenez ? En mission pour le Seigneur.
Je comprends parfaitement, mais nous, nous sommes en mission pour le commissariat du secteur 12. Donc vous allez gentiment filer un manteau et nous suivre illico.
Non mais c'est pas possible, frérot, vous êtes bouché ou quoi ? Je vous dis que j'ai un job divin à accomplir. J'ai pas du tout le temps de vous suivre au commissariat du secteur 12, ni à celui de Pétaouchnok ou de je ne sais où.
Oh là là, mollo le ton.
Mais vas-y, vas-y, mollo toi-même. Mais tu sais pas à qui tu causes, espèce de mécréant.
Ok, alors, outrage à un fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions, ton compte est bon, Callot, passe-lui les pinces.
Mais de quoi ? Mais ça va pas, non ? Je suis super Jésus,
ah,
quoi.
Ouais, ouais, pardon, autant pour moi. Callot, passe-lui les super pinces.
Allez, mon gaillard, viens par là, fais pas d'histoire.
Mais non, mais arrêtez, vous me faites super mal.
Allez, allez, allez.
Qu'est-ce qui se passe ? Où est Super Jésus ? Mais qui êtes-vous ?
Commissaire Boulard, et vous ?
Sœur Natacha.
C'est votre nom, ça, Sœur Natacha ?
C'est celui qu'on me donne ici.
Très bien. Et vos parents, ils vous donnent quoi comme nom ?
Chacha.
Je vous demande votre nom de famille.
Oh ben, je vous le donnerai quand vous m'aurez dit ce qui se passe ici, hein.
Et moi, je vous dirai ce qui se passe ici quand vous m'aurez précisé vos liens avec Monsieur Bourdet.
Qui ça, Monsieur Bourlet ?
Bourdet. Régis Bourdet.
Je ne connais pas.
Le type barbu, avec la toge en sac à patates et les sandales en peau de lapin.
Ah, c'est de la peau de zèbre !
Pardon ?
Ce sont des sandales en peau de zèbre orientale du Belize.
Du Belize ?
Oui, du Belize. La monarchie constitutionnelle unitaire dotée d'un régime parlementaire à tendance ministérielle, dont le territoire s'étend sur 22 966 km² du sud-est du Mexique au nord-est du Guatemala.
Et il y a des zèbres là-bas ?
Ah bah il y en a plein, et leur peau est super recherchée, surtout pour faire des sandales.
J'ignorais.
La peau de zèbre, ça coûte la peau du cul. Mais ça ne me dit pas ce que vous faites ici et ce que vous avez fait de Super Jésus.
On l'a embarqué.
Quoi ? Vous avez embarqué Super Jésus ? Mais vous êtes fou ou quoi ? C'est le nouveau Messie.
Ah oui, oui, quand même, ouais.
Je peux vous dire que s'il se met en boule, vous allez passer un sacré mauvais quart d'heure. D'ici à ce qu'il fasse tomber le courroux divin sur toute votre famille pour les 30 générations à venir, avec la pluie de sauterelles, orage, grêle, furon plat gogo, y a pas loin.
Eh ben ça promet. On peut rentrer dans l'appartement, j'ai deux ou trois questions à vous poser là. Quels sont vos rapports avec Monsieur Bourg, enfin avec Super Jésus ?
C'est mon maître spirituel. Avant de le connaître, j'irai dans l'existence comme une... misérable pécheresse, Super Jésus m'a fait voir la lumière céleste.
Oh là, carrément.
Moi qui pensais que les voies du Seigneur étaient impénétrables, il m'a aidé à sonder les profondeurs de mon âme. En élargissant, le chemin tout étriqué, tout fripé qui mène à la béatitude.
Le chemin ? Quel chemin ?
Oui, bien sûr. Au début, ça résistait un peu. Hein. Et même pour tout dire, je dois avouer que ça n'était pas très très agréable. Hein. Mais Super Jésus n'a pas abandonné pour autant. Il n'est pas comme ça. Il a insisté, il a forcé le passage jusqu'à ce que ça cède sous les coups de boutoir de sa super conviction.
Sa conviction? Vous êtes sûr que ce serait pas plutôt ça?
Une bonne poignée de sermons et zou! C'est passé tout seul. Louons Super Jésus, grande et sa méga puissance, et encore plus grande sa giga foi.
Ok, je vois le genre. Mais sinon, est-ce que vous pouvez me dire dans quelles circonstances vous avez fait ça? Excusez-moi, je sais que nous sommes dans un espace privé et qu'il n'existe pas de texte de loi précis à ce sujet, mais ça vous dérangerait beaucoup d'enfiler un slip, parce que là, franchement, c'est un peu gênant.
Gênant pour les mécréants de votre genre, hein. Super Jésus ne trouve pas ça gênant, lui. Super Jésus est un esprit supérieur. C'est le nouveau Messie, je vous dis. La réincarnation de notre Seigneur Tout-Puissant.
C'est ça. Et moi, je suis Gary Cooper.
Gary Cooper? L'acteur du cinéma?
Oh merde, c'est qui celui-là encore?
Hé, hey, Christian, viens voir, il y a Gary Cooper dans le salon.
Gary Scooter, le livreur de chez Tony Pizza?
Mais non, Gary Cooper, celui du train sifflera trois fois, de Veracruz, de l'homme de l'Ouest.
Oh la vache, Gary Cooper.
C'est ça.
L'acteur américain?
Oui!
Eh ben quoi?
Eh ben, il est dans le salon.
Il m'a apporté ma quatre fromages?
Oh putain, je sens qu'elle va être longue, cette enquête.
Super Jésus va-t-il arriver à s'échapper des griffes du commissaire Boulard? Va-t-il convertir tout le commissariat et ainsi renflouer ses caisses? Vous le saurez en écoutant l'épisode 2.
La Bourboule parano. Le feuilleton made in béton.
Un magnifique premier épisode qui donne envie d'en savoir plus, forcément. Donc, épisode que vous retrouverez ainsi que la totalité de la saison 1 sur le site de podcast de votre radio préférée, podcast-radiobéton.com. Et c'est ainsi que s'achève cette nouvelle émission de la 5e saison de Des Poches sous les yeux. L'émission, nous étions ravis d'être en direct du Théâtre Olympia à l'occasion du WET, grâce auquel je vais me faire un plein de spectacles vivants ce week-end. Merci. Et pour les inconditionnels, cette émission sera rediffusée mardi 31 à 18h. Pour les plus connectés, retrouvez l'intégrale de l'émission sur les internets, sur le site podcast-radiobéton.com. Et pour vous, les fidèles, on se retrouve le mois prochain au Point Haut, à l'occasion de leur teuf d'anniversaire. Pas aussi bien que les 40 ans de Radio Béton, mais forcément un must où déjà vous allez retrouver vos chroniqueurs préférés. Et d'ici là, allez chez vos libraires préférés, dans vos bibliothèques municipales, allez où vous voulez, mais lisez.
Des poches sous les yeux, l'émission.